Matthieu 7, 13 à 28. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement.
Le verset 29, Pierre, excusez-moi.
Car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes.
Désolé. Je vous invite à trouver Matthieu chapitre 7 dans votre Bible. Matthieu chapitre 7. Et les versets 13 à 27. Pour vous qui avez suivi ces paroles de notre Seigneur débonnaire, nous avons été repris, nourris, instruits. Tout ce qu'on peut imaginer au fil de ces semaines. Ce jour-là, le Seigneur Jésus, ayant achevé toutes ses paroles, se tourne vers la foule dans un appel d'évangélisation, carrément. Et si vous avez suivi la lecture de Pierre, vous avez remarqué que ce passage qui est assez long tient ensemble. Nous avons au début deux chemins, deux portes, deux chemins menant à deux destinations. Ensuite, nous avons deux sortes de messagers, des faux prophètes et des vrais, deux sortes d'arbres, de bons arbres, des mauvais arbres qui portent de bons fruits et de mauvais fruits. Ensuite, nous avons deux sortes de gens qui professent la foi en Jésus, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et n'aboutissent pas. Et les vrais croyants. Et ensuite, il nous parle de deux sortes de bâtisseurs, deux sortes de fondements, le sable et le roc, et deux destins après quand la tempête vient. Alors, vous pouvez voir que pour bien faire, il ne faut pas que nous divisions ces choses, mais que nous comprenions que le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a si vous êtes chrétien, de vous dire que vous devez dire aux gens qu'il y a deux chemins dans la vie. Deux chemins dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de chemins, il y en a deux. On dirait, en regardant la multitude de religions dans le monde, la multitude de voies de philosophie, qu'il y a beaucoup de chemins, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a le chemin du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur, envoyé par le seul Dieu qui est. Et il y a pas Jésus. Ça, c'est l'autre chemin. Qui a des variétés énormes. Mais ce chemin est fondamentalement de ne pas accepter le vrai Dieu, son vrai sauveur et son vrai chemin. Vous vous rappelez que Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est dans un monde très, de plus en plus pluraliste, quand moi j'étais jeune, c'était pas étonnant ou scandaleux d'avoir un débat où on pouvait concevoir que quelqu'un peut avoir raison et l'autre tort. Mais de plus en plus, ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas de tort. Il n'y a pas de vérité. Il y a ma vérité et ta vérité. Et le relativisme est en train de créer une situation complètement différente qui n'a peut-être jamais existé, au moins de cette façon, dans l'histoire humaine. Voilà. Mais en tout cas, le Seigneur nous dit... qu'il y a deux chemins, dont un mène véritablement à Dieu. Et vous voyez qu'au début, lorsque nous lisons les versets 13, nous voyons entrer par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Jésus nous parle de deux choses qui sont assimilées. Il y a une porte, les amis, et il y a un chemin. Bon, c'est normal parce que vous qui faites des études, c'est un peu comme l'étudiant universitaire. Il y a un accès aux études et si vous êtes admis à un programme, une fois que vous êtes admis, il y a un chemin à suivre. Il y a un cursus à suivre. Et donc, il y a une porte d'entrée vers la vie éternelle, que nous appelons parfois la conversion. Et une fois qu'on est entré par cette porte, il y a une vie chrétienne qui débouche, n'est-ce pas, qui découle de ce chemin et qui débouche sur la vie éternelle auprès du Seigneur. Mais la première chose que nous devons faire, c'est entrer. Et c'est le premier mot impératif que Jésus nous donne, n'est-ce pas? Il dit dans le verset 13, « Entrez !» Et moi, je vous dis, si vous n'êtes pas sûr d'être entré, c'est la première chose. Entrez, d'abord. Je connais beaucoup de gens, j'en connais en ce moment, qui sont autour de la porte, et qui réfléchissent, il n'y a pas de mal en cela, dans un sens, mais à un moment donné, n'est-ce pas, il faut entrer, il est urgent d'entrer, et vous entrez par le chemin de Jésus-Christ. Et la première chose que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que dans cette fin de son sermon, c'est qu'il y a des fausses portes et des faux chemins. N'est-ce pas son propos? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et le Seigneur nous dit très clairement que un chemin mène à la vie et l'autre à la perdition. Jésus décrit cette porte qui mène à, et ce chemin qui mène à la vie, et il décrit la porte et le chemin qui mène à la perdition. Et vous avez vu la différence? La différence est plus ou moins dans un mot, deux synonymes. Mais il nous dit que si vous voulez savoir, la porte qui mène à la vie est étroite, la porte qui mène à la perdition est large. Le chemin qui mène à la vie est resserré, le chemin qui mène à la perdition est spacieux. Donc nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Jésus a choisi de parler de cette manière-là. Et c'est complètement logique, n'est-ce pas? Lorsque je vais auprès de quelqu'un, ou vous, si vous êtes chrétien, et que vous leur dites que Jésus-Christ est le chemin, sa personne et son œuvre sur la croix, lui seul révèle Dieu, lui seul expie nos péchés, ça c'est très étroit. Tout se focalise sur une personne de l'histoire. Une qui est venue. Et donc, dans un sens, on ne peut pas être plus étroit que ça. Nous entendons la philosophie, la manière de penser de la porte large quand les gens disent que ceci. Tout le monde ira au paradis. Et derrière ça, il y a une petite exception, pas Hitler, hein, et quelques-uns. On est plus ou moins d'accord que. Mais cette perspective, les gens pensent réellement que tout le monde presque ira au paradis, tous les chemins mènent à Rome. Et toutes les religions mènent à Dieu, et à peu près tout le monde y arrive. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est sur ce chemin spacieux. On regarde et presque tout le monde est là. Ben, c'est bien, presque tout le monde est là. On y va. Et la majorité ne peut jamais avoir tort, bien sûr. Et donc, c'est la pensée que l'homme a toujours raison, consulte l'humanité, prenez l'avis majoritaire et vous avez la vérité. Donc, mais Jésus dit juste le contraire. Il dit que si vous voulez trouver le vrai chemin qui mène à Dieu, ne cherchez pas celui sur lequel on est tous. Un chemin qui est large, qui a la place pour beaucoup de variétés. Tu peux croire ceci, tu peux suivre celui-là ou celui-ci. C'est pas important. C'est pas important. Tout cela, c'est large le chemin. On a la place pour tout ça. On est inclusif. Il y a une vraie inclusivité dans l'évangile. C'est vraiment, venez tous. Soyez sauvés tels que vous êtes, mais c'est une autre sorte de manière d'être inclusif. Mais ce spacieux chemin qui mène à la perdition, peu importe ce que tu crois, peu importe qui tu suis, pourvu que tu sois, vous pouvez me dire, sincère, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus dit qu'il y a un chemin. Une fois qu'on est entré par une porte, on est sur un chemin. Et Jésus dit que la différence entre les deux chemins, c'est que le chemin qui mène à la vie est resserré. Pourquoi dit-il cela? Parce que c'est resserré. Vous êtes entré dans la vie chrétienne, la plupart de vous, peut-être tous, et vous savez que une caractéristique de ce chemin, c'est on ne fait pas n'importe quoi. Le chemin, c'est notre style de vie, c'est notre perspective, nos priorités, notre éthique, ce qui est notre définition de ce qui est bien, ta définition de la bonne vie, de la vie de bonheur, où ça se trouve. Et lorsque on retrouve le citoyen du royaume de Dieu, on trouve que ce chemin, c'est resserré, plein de joie. C'est une vie de liberté, c'est une vie d'abondance, mais c'est resserré. On ne peut pas croire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors que, oui, juste un exemple peut-être, le chemin, c'est non pas la justice de soi, mais la justice de Christ seul qui me règle avec Dieu. Regardez les formes des religions dans le monde. Toutes les religions du monde, à part le vrai christianisme, fonctionnent sur le même principe. C'est pourquoi c'est un chemin. C'est ce que moi je fais pour me régler avec Dieu. Ça peut être 5 piliers, ça peut être 7 sacrements, ça peut être 8 principes de l'hindouisme, les 8 principes de l'hindouisme, ça peut être n'importe quoi, mais c'est ce que je fais pour y arriver. Alors que le chemin étroit dit que ce que tu fais est rejeté, parce que c'est taché de ton péché. C'est ce qu'il fait pour vous. Ou bien, le vrai chemin, le faux chemin, c'est resserré parce que nous croyons au Dieu trinitaire. C'est pas croire au Dieu que tu veux, c'est il y a un seul Dieu qui règne sur l'univers. Et il existe depuis toujours en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou bien, regardez la différence entre ce chemin resserré qui n'est pas une religion de rite, mais une religion, oui, une religion de relation et de repentance. Pas simplement des rites, mais une vraie relation et une vraie repentance. Ou bien, vous pouvez penser au fait que dans beaucoup de voies, on peut fabriquer en kit ses propres règles, alors que nous avons un chemin resserré, parce que les règles sont là. Dieu nous dit ce que nous devons croire et comment nous devons vivre. Bien, donc à la fin de cette première partie, nous nous demandons, est-ce que je suis entré par la porte étroite qui est Jésus-Christ? Est-ce que je suis sur le chemin resserré, chemin bon? On a l'impression qu'on est entré dans un monde d'amour quand on est converti à Jésus-Christ. Mais un chemin resserré, parce que ça écarte tout ce qui n'est pas vrai et tout ce qui n'est pas bon. Ensuite, le Seigneur nous parle de 2 sortes de messagers qui vous parlent de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous et moi, si nous allons entrer par la bonne porte et aller sur le bon chemin, il faut écouter le bon message et le bon messager, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit, à partir du verset 15, avec cette tendresse et cet amour, mais en même temps cette fermeté, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, il y a un moyen de les discerner. Oh, heureusement, le Seigneur nous dicte ce moyen. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, et l'arbre ici, c'est le prophète, c'est pas vous, c'est pas le chrétien, non. Dans le contexte, c'est l'arbre. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits, pas vos fruits, leurs fruits, les prophètes, que vous les reconnaîtrez. Donc, on peut remarquer, on peut observer ce que produit le message d'un prophète, d'un gourou, d'un leader religieux, d'un pasteur, d'un prêtre. Et à ces fruits, on peut reconnaître. On va discuter ça juste un moment. Jésus nous avertit que ce n'est pas tout le monde qui vous dit « je parle au nom de Dieu » qui le fait. Ça, vous le savez. Ce monde est rempli de gourous, de prophètes, de gens qui vous disent « le Seigneur m'a dit ». Ne manque pas. Mais il dit donc « gardez-vous, soyez vigilants, faites attention ». Il va même dire ailleurs que certains parleront en son nom et ne seront pas des vrais prophètes. Et il ne suffit pas que vous utilisiez le nom de Jésus-Christ pour que ça devienne tout de suite un vrai message. D'accord? Donc, nous devons faire attention. Et le Seigneur nous donne donc cet avertissement en disant que les faux prophètes sont dangereux à cause de leur apparence. Ils viennent à vous comme des brebis. Nous sommes un peu, parfois un peu naïfs. Nous pensons que, en tant que pasteur, je ne trouve rien de plus commun que d'entendre les gens dire que tel pasteur, tel prêtre, tel gourou, tel prophète, il doit être de Dieu parce qu'il est tellement sympa. Et de dire que quelqu'un qui est sympa, mais vraiment, je vous assure, super sympa, n'est pas de Dieu, cela est tout simplement incompréhensible pour les gens aujourd'hui. Mais Jésus dit, ils ne viennent pas à vous comme des loups. Le prophète n'a pas une étiquette qui dit ici, loup ravissant, faites attention. Non, quand vous êtes avec le faux prophète, vous êtes ravis. Vous vous sentez tellement aimé. Combien de gens sont allés chez les mormons ou chez je ne sais pas quel secte parce qu'on a été tellement sympa avec vous. Mais le problème, ce n'est pas de savoir si quelqu'un est sympa. C'est simplement, il doit être sympa. Hein? S'il n'est pas sympa, il est rayé pour une autre raison. Mais il peut être sympa et vous dire quelque chose qui n'est pas vrai sur Dieu et sur comment connaître Dieu. Il peut vous dire un mensonge. Et il peut se convaincre, se leurrer lui-même d'abord vis-à-vis de ce mensonge et puis vous tromper après. Donc Jésus nous dit de faire attention à cause de cela parce que ces gens sont tellement sympas. C'est pas par la sympathie que vous allez distinguer le vrai messager du Seigneur et le faux. C'est pas comme ça. Si vous comprenez une chose, ils viennent à vous comme des brebis. Les vrais messagers de Dieu viennent à vous comme des brebis aussi. C'est-à-dire inoffensifs. Et vous comprenez bien l'image, c'est que nous sommes tous des brebis, et lorsqu'une brebis vient, il est un des nôtres, il n'y a pas de problème. Il est avec nous, on peut l'écouter, on peut, n'est-ce pas? C'est pas un loup. Mais eux, ils viennent à vous pas en tant que brebis, mais comme s'ils étaient des brebis. Et nous pouvons regarder les fruits, mais attention de la manière dont on regarde les fruits. Parfois, ça, il faut du temps pour voir, n'est-ce pas? Et aussi, il faut les bons critères. Mais regardez en général ce que produit, par exemple, une foi, une religion. Est-ce que la foi catholique, en général, et j'ai grandi en tant que catholique, j'étais catholique très pratiquant. Donc, et bien sûr, il y a des catholiques qui sont des vrais frères et sœurs, mais je parle de l'institution et du dogme hein, en ce moment. Est-ce que ce dogme, est-ce que la chaise prophétique de l'Église de Rome produit, est-ce que l'Église catholique produit des gens qui lisent la Bible et qui aiment la Bible? C'est étonnant pour moi combien de fois j'ai entendu un catholique me dire « Ah oui, oui !» Parce que je parle avec lui, je cite la Bible, il dit « Oui, oui, oui !» Vous êtes protestant, vous lisez la Bible. Vous connaissez la Bible. J'ai entendu ça la semaine passée encore. Et quand un catholique vous dit ça, c'est pas un aveu. C'est pas un aveu d'un tort, de quelque chose. Il dit ça avec la plus grande nonchalance, il n'y a pas de problème. Nous négligeons la Bible, nous ignorons la Bible, alors que Jésus dit, celui qui a mes paroles et qui les Garde, c'est celui qui m'aime. Mais une église, toute une église, un système, une foi, un enseignement, une papauté, produit le fruit général, habituel, typique de tout un peuple de centaines de millions qui ne lisent pas la Bible. Historiquement, ça c'est vrai. Et en France, ça c'est vrai. Typiquement. Heureusement, il y a des exceptions. Mais ça, c'est l'effet de ces prophètes. Donc, nous pouvons les juger par leurs fruits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, que ça puisse changer. Est-ce que l'islam produit historiquement, typiquement, habituellement, des faiseurs de paix? Je ne parle pas de l'islamisme, je parle de l'islam. Et si vous connaissez l'histoire de l'islam, vous savez que l'histoire de l'islam est une histoire de conquête. Et quand même, aujourd'hui, dans les... Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais vous voyez, on peut juger un enseignement par le fruit un peu typique de ce qu'il produit. Ou bien, si vous prenez les religions orientales, si vous prenez l'hindouisme ou le bouddhisme, qu'est-ce que cela produit typiquement et habituellement? Quand vous allez en Inde et vous voyez le système de caste, et vous voyez que l'enseignement lui-même produit une situation où des gens peuvent être délaissés dans la rue, dans la situation la plus terrible et misérable, alors qu'on ne touche pas aux vaches, parce que c'est le karma. Vous voyez un système qui produit une négligence délibérée des plus démunis. Parce qu'il faut qu'ils subissent leur karma. E. Stanley Jones était un missionnaire renommé dans le XXe siècle qui a passé sa vie en Inde. Et il a dit à un moment donné où la peste tuait beaucoup de gens en Inde, un ami à lui a suggéré que quelque chose soit fait pour soulager les conditions. Et le chef du village, un bouddhiste, a répliqué « Rien ne peut être fait, c'est le résultat de leur karma, ne le perturbe pas. » Vous comprenez? C'est l'enseignement qui produit un certain fruit, un certain caractère, une certaine perspective, une certaine manière d'agir et de voir. Et nous pouvons juger le prophète par son fruit. Est-ce qu'un enseignant qui parle au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'il produit des gens qui sont attachés à Jésus-Christ? Qui avouent leur faute? Qui ne sont pas toujours triomphants, triomphalistes dans leur perspective, mais humbles. Ils savent que nous ne sommes pas encore au ciel. Nous avons bien des faiblesses. Est-ce qu'il produit quelqu'un qui prie, qui aime, qui croit à tout ce que la Bible dit? Ainsi de suite, nous pouvons appliquer ces règles. Ok, deuxième point, donc c'est au sujet des messagers. Nous devons vraiment faire attention parce qu'il y a, pour entrer sur le bon chemin, il faut écouter le bon messager. Troisièmement, le Seigneur nous dit qu'il y a deux sortes de personnes qui prétendent être chrétiens. Alors, vous savez qu'il ne suffit pas que vous ayez le bon messager et même la bonne porte et même le bon chemin. Vous pouvez avoir ces trois choses et ne pas y arriver. Pourquoi? Parce que vous-même, votre foi, votre entrée, votre conversion n'est pas authentique. Et c'est ça que Jésus va dire. C'est-à-dire, ma réponse et votre réponse à l'évangile peut être faussée. Maintenant, écoutez bien ces paroles tellement importantes. Il dit au verset 21, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup « beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus nous dit ici qu'il y a ce qu'on appelle la fausse conversion. Les évangiles en parlent ailleurs. Beaucoup de gens, Jean chapitre 2, versets 24 et 25, beaucoup de gens, en voyant ces miracles, ont cru en lui. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Le mot grec « se fier », c'est le même mot que « croire ». Beaucoup ont cru en lui, mais il n'a pas cru en eux, en leur foi. Et c'est important pour nous de savoir que ça existe, qu'on peut être touché puissamment par l'Évangile, qu'on peut être même changé par l'Évangile, sans être né de nouveau et sans être vraiment converti. Il y a des actions non régénératrices de l'Esprit Saint qui doivent être normalement le précurseur d'une vraie conversion, mais parfois cela est court-circuité. C'est-à-dire, on vous donne quelque chose à faire, lève la main, signe cette carte, tu es converti. Et tu te crois converti alors que tu étais travaillé, que tu étais vraiment presque là, et puis on t'a donné un faux message qui t'arrête en plein chemin vers une vraie conversion. C'est terrible, je l'ai vu trop de fois, et j'ai vu trop de gens qui commençaient bien, et puis quelques années après, ils disent « je suis athée maintenant ». Mais ce n'est pas exactement le cas ici. Jésus est en train de nous avertir de toute façon que, attention aux faux prophètes, attention à mon cœur, à moi aussi, à ma réponse, à l'évangile. Donc, il dit que ces gens ont plusieurs choses positives. Vous avez regardé, ils appellent le Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur! Ils sont très actifs. N'avons-nous pas fait ceci, et cela, et cela, et cela en ton nom? Ce n'est pas des gens sur les marges des églises. Ce n'est pas de cela qu'ils parlent. Ils parlent des gens les plus actifs de l'église. Et des expériences surnaturelles. Jésus ne démentit pas qu'ils auraient fait ceci ou cela. Ils ont eu des expériences surnaturelles et ils sont de ceux-là qui pensent, qui se fondent sur mon expérience pour dire que je suis chrétien. Il y en a beaucoup. Puisque j'ai eu cette expérience, je suis vraiment né de nouveau. Il n'y a rien de plus dangereux que de cela. Mais donc, ils ont ces trois choses, Seigneur, Seigneur, très actif et ces expériences. Mais Jésus dit dans le verset 23, il dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un moment où vous étiez vraiment chrétien. D'accord? Il ne s'agit pas, Jésus n'est pas en train de décrire quelqu'un qui était véritablement chrétien et qui est devenu autre chose. C'est lui qui le dit comme ça. Hein? Donc, je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire, ça veut dire que je ne vous ai jamais reconnu comme étant à moi. Donc, il s'agit de personnes faussement converties dès le début. Et nous voyons que Jésus nous aide à comprendre les caractéristiques d'une telle personne. Il dit tout simplement... Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, donc, on peut faire des miracles tout en vivant dans l'immoralité sexuelle, en vivant une vie qui n'est pas honnête, intègre, humble. Il y a même des gens qui font beaucoup de miracles. Et le trait presque dominant de leur caractère, c'est de ne pas être humble. Ils se mettent vraiment au-devant de toutes les scènes. Est-ce que malgré vos expériences, votre Seigneur, Seigneur, est-ce que vous vivez une vie où vous vous repentez souvent? Où votre cœur a été changé et le caractère de ce changement, c'est que ce changement vous mène à dire souvent « j'ai tort ». Et ce tort, ce n'est pas « je suis sorti un peu de mon caractère », c'est mon caractère. Est-ce que vous avez été amené à cela? À dire que j'ai souvent besoin de pardon de Dieu et des hommes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas encore chez moi. C'est ce genre de choses, n'est-ce pas? Au lieu de vivre, de commettre l'iniquité, on se repent. On vit une vie de repentance. Et je termine cette partie juste en vous rappelant que Jésus a dit le mot beaucoup. Je ne peux pas en dire plus, mais nous le verrons au jour du jugement. Rappelez-vous de mes paroles en ce moment-là. Vous avez été avertis que beaucoup, pas peu, beaucoup de gens vont dire qu'ils sont allés jusqu'à faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Et Jésus ne les reconnaîtrait pas comme les siens. Donc, attention. La vraie conversion est une perle plus rare que vous ne pensez. Enfin, Jésus nous parle de deux manières d'écouter ses paroles. Les deux bâtisseurs, les deux fondements, le sable, le roc. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que Jésus, maintenant, veut nous donner un contraste qui nous montre le cœur de la différence entre le vrai et le faux. Entre la personne qui vous êtes, si vous êtes sur le vrai chemin ou le faux chemin. Et le cœur de la différence, c'est comment est-ce que vous écoutez les paroles de Jésus-Christ ou de la Bible. Comment est-ce que vous répondez à ces paroles. Alors, disons juste rapidement, et je vais rapidement le finir ce message. Ainsi, dans le verset 24, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, du sermon sur la montagne, et les met en pratique, ou plus exactement, les faits, j'aime pas cette phrase, mettre en pratique, je crois, en français, on devrait enlever ça du dictionnaire, mettre en pratique. » Pratiquer. C'est pas pratiquer, je ne suis pas pratiquant. C'est pas pratiquer, c'est obéir, tout simplement. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit mettre en pratique, c'est comme si tes paroles sont une théorie jusqu'au moment où moi, je les mets en pratique. Bon, je sais que nous avons tous des phrases comme ça dans nos langues, mais en grec, il ne dit pas mettre en pratique, il dit fait. Quiconque entend ces paroles et qui les fait, qui fait ce que je dis. Comme la maman, elle va dire à son enfant, fais ce que je dis. Elle ne va jamais dire, mets en pratique mes paroles. Ou jamais. Donc, en tout cas, vous comprenez bien ce que Jésus dit. Donc, il dit qu'il les fait sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, imaginez, presque un tsunami, et pas tout à fait, mais les vents ont soufflé, se sont portés contre cette maison, ça décrit le jugement dernier, d'accord? Ou ce que vous avez bâti, on décrit une vie que vous avez bâtie, cette maison, c'est vous allez entendre les paroles de Jésus et vous allez faire quelque chose avec, ok? Vous êtes en train de faire quelque chose avec. Et il y a deux choses que vous allez faire avec. Soit vous allez prendre ces paroles et vous allez regarder ces paroles comme des impératifs, des la parole de Dieu qui vous aime, la parole de sagesse, de bonté, de commandement, de vérité. C'est la vérité et vous allez vous soumettre, vous allez vivre en dessous de ces paroles. Et ce que Dieu me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce que Dieu me dit. Et il me dit ceci. Voilà comment je... Et vous allez bâtir des perspectives, des croyances, des priorités, des manières de vivre, des manières de penser, des manières de gérer vos émotions, de vivre la sexualité, de vivre la famille. Vous allez faire ces parties de votre vie selon les paroles de Jésus. Et vous allez bâtir une vie chrétienne, une vie qui ressemble aux paroles de Jésus. Voilà, une possibilité. Ça, c'est bâtir sur le roc. L'autre possibilité, c'est que vous pouvez prendre les paroles de Jésus, vous pouvez, parce que les deux personnes les entendent. Oublions les bouddhistes pour maintenant, hein. C'est les gens qui sont au sein de l'Église chrétienne maintenant. Ceux qui entendent mes paroles dans les deux cas. OK? Et vous pouvez, par contre, entendre les paroles de Jésus et puis faire un peu ceci. Vous piochez. Ça me semble raisonnable. Donc, je prends ça. Ça me semble incroyable. Je laisse ça de côté. Ceci, ça m'arrange. Ceci, c'est trop dur à faire. Ça demande un sacrifice. Donc, je ne vais pas le refuser à haute voix. C'est trop dangereux. Je vais juste ne pas faire attention à ça. Je vais faire comme c'est si je ne l'avais jamais lu. D'accord? Et ainsi, au fil des années, vous allez bâtir une vie qui est un peu christianisée, mais pas du tout chrétienne. Vous n'êtes pas sous les paroles de Christ, vous êtes à côté de ces paroles, ou même en dessous, en train de piocher ce que vous voulez. Vous voyez la différence énorme d'une réaction, d'une réponse au Seigneur et à sa parole. Dans un cas, une personne entend les paroles qui viennent de sa bouche comme les paroles du maître, de mon maître, de mon rédempteur, de mon sauveur, de mon Dieu. Et je l'ai fait. Imparfaitement, bien sûr, mais je me repens. Et de plus en plus, je l'ai fait. Et dans d'autres cas, on n'a jamais eu l'intention de les faire toutes. De les faire toutes. Et ça, c'est le simple. Et Jésus décrit cette personne comme étant celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Le jugement dernier est décrit dans ces mots où ce que nous avons bâti seront mis à l'épreuve et exposés. Et c'est pour cela que nous voulons entrer par la vraie porte et cheminer sur le vrai chemin, qui est un chemin de croire que tout ce qu'un sauveur dit, un sauveur qui peut se laisser pendre au bois pour mon salut, tout ce qu'il dit est empreinte d'amour et de vérité, et je dois le suivre. Nous allons chanter. Deux cent quatre-vingt-cinq dans le recueil bleu.